Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Radio Alliance Plus, au micro Michel Jasse. Eh bien, chers amis auditeurs, je suis heureux d'être cette fois-ci avec un ami que je retrouve. On ne s'était pas revu depuis 40 ans.
À peu près, oui.
Mais on ouais. fait jeunes tous les deux.
Oh, ça doit être ça, oui, tout à fait.
Alors, on était deux jeunes pasteurs dans la même région, Cévennes-Languedoc-Roussillon.
Oui.
Toi, avec un accent suisse.
Sûrement,
mais ouais. tu l'as gardé. Et puis moi, avec un accent du Midi, et toi, tu étais dans les Cévennes, et moi, j'étais à Perpignan. Mmh. Et on se retrouvait pour des commissions de réflexion, d'organisation. Et j'avais bien sympathisé avec toi. Je savais que tu étais reparti en Suisse, que tu as eu un ministère, toute une vie en Suisse. Et maintenant, on se retrouve. J'avais entendu parler de toi parce qu'en fait, dans une des paroisses au sud de Nîmes, les gens me parlaient de Philippe Genton. Ah, le pasteur formidable que nous avons eu, qui organisait des choses qui marchaient très bien, beaucoup d'animation pour les jeunes, etc. Le pasteur Philippe Genton, ça, c'était du sérieux. C'était formidable quand il était là. Et puis, j'étais entendu en conférence. Et alors là, je me suis dit, il n'a pas changé, et en plus, il s'est amélioré, et je t'ai trouvé formidable. Tu nous as parlé de ce que tu vas partager avec les auditeurs maintenant.
Oui, volontiers, oui.
Finalement, ton travail, mais qui est assez existentiel, la rencontre avec l'autre, chez des personnes que quelquefois, on détourne le regard, on n'en veut pas les... et qui nous ennuient un peu, qui sont... qui sont pourtant un peu partout dans nos villes.
Et oui, et comment ?
Alors, tu as commencé par Nîmes ou par Alès ?
Ben, j'ai envie de dire que j'ai commencé d'abord par mon enfance. Ouais. Mes parents étaient déjà des gens comme ça. Il arrivait à la maison qu'ils invitent quelqu'un.
Ah oui.
Qui venait, on ne savait pas toujours d'où. On appelait ces gens, à cette époque, des clochards.
Oui.
Aujourd'hui, on a un petit peu changé de manière d'en parler, mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes misères, les mêmes conditions. Et je pense que ça vient de mon enfance, que ces gens font partie des familiers que je connais. Et lorsque j'étais pasteur ici, dans la région, surtout du côté de Générac, je passais souvent à Nîmes, je n'hésitais jamais à discuter avec ceux qu'on a appelés à ce moment-là des SDF,
ouais.
Et de m'en faire des copains. Et quand je suis rentré de retraite, que j'ai pris ma retraite et que je suis venu m'établir ici dans la région, à quelques kilomètres de Nîmes, j'ai eu envie de me promener d'abord pour redécouvrir cette ville, mais aussi pour redécouvrir ces gens qui étaient des gens que je connaissais plus, forcément. Et ça m'a fait plaisir d'en retrouver, de me lier d'amitié avec eux et de passer du temps avec eux.
Ah, ici, à Nîmes.
À Nîmes, oui.
Oui.
Et puis...
Mais dans tes paroisses, dans ce que tu as vécu en Suisse, en Suisse, il y a moins de clodo, comme on dit.
Alors, il y en a moins, oui, mais en fait, c'est très compliqué de compter. La Suisse a des moyens financiers et des programmes d'entraide qui sont tout à fait différents de ce qui se passe ici en France, pour toutes sortes de raisons. Et donc, les gens de la rue... sont presque toujours des gens qui ont pris la décision d'être dans la rue. En principe, personne peut être dans la rue par accident en Suisse. C'est théoriquement pas possible. Mmh. Alors je dis bien théoriquement parce qu'il y a toujours des gens qui n'osent pas demander. Mmh. Alors qu'en France, la situation est relativement différente. Mmh. D'autant plus lorsque la Fondation Abbé Pierre compte qu'il y a environ 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc la réalité est d'abord cachée. Mmh. Il y a tous ceux qui sont en logement, mais qui n'ont pas de quoi vivre, ou très difficilement de quoi vivre, mais qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas le montrer.
Mmh.
Donc, je suis venu ici à Nîmes, j'en ai rencontré un certain nombre, je me suis lié d'amitié avec plusieurs, notamment, que je revois encore de temps en temps. Mais je me suis rendu compte que Nîmes offrait des possibilités plus grandes que d'autres. Pas tellement sur le plan institutionnel, mais sur le plan économique, tout simplement.
Oui.
Il y a beaucoup de zones industrielles, de zones économiques assez dynamiques qui offrent des petits emplois, des possibilités de travail dits alternatifs. Et puis, il y a toute la campagne environnante. Il y a des besoins de cueillettes, de taille, etc.
Ah oui, ça compte. Oui.
Ça compte beaucoup.
Oui, d'accord.
Tandis que j'ai par hasard découvert qu'Alès était dans une situation très différente et j'ai décidé d'aller plutôt rencontrer ceux d'Alès. Et ça a été une nouvelle aventure pour moi de rencontrer ceux-là. Et ça a commencé par deux gars. Je ne veux pas dire les prénoms parce que c'est gênant de le dire à la radio. Après, je ne sais pas quel usage des gens pourraient en faire et les reconnaître. Mais en fait, j'ai rencontré deux gars, chaque côté de la route. Et là, je suis entré dans un monde qu'il faut connaître. Le premier, il se présente à moi et au bout d'un petit moment, il me dit « Moi, mon père, c'est le salaud qui a violé ma mère. » Et puis ma mère s'est mariée, et puis elle a fait un frère, un petit frère à cet homme. Alors maintenant, je suis aussi le bâtard. Et je me suis rendu compte que pour cet homme, s'identifier, c'est d'être le fils d'un viol et le bâtard. Et qu'à cause de cela, il n'avait jamais eu cette estime de soi nécessaire pour croire en soi, se faire confiance et vivre une scolarité un peu normale. Et malheureusement, ça a débouché délinquance précoce, alcoolisme, toxicomanie et tout ce cortège de misères qui vont avec. En même temps, c'était un gars que je reconnaissait comme de grandes valeurs, intelligent, vraiment intelligent, oui. Beaucoup de sens, de bon sens, une bonne analyse de la réalité, mais qui ne croyait absolument pas en lui et à ses capacités.
Oui, je suis le bâtard, quoi.
Je suis le bâtard.
Ouais.
Et je suis né d'un viol. On ne se rend pas compte qu'il y a plus d'un qui vit cette réalité. Et puis celui d'en face, l'autre, qui était son copain, son acolyte, c'est tout simplement un gars qui a passé sa vie à être violé par les membres de sa famille. C'est une de ses victimes de certaines réalités familiales qui lui aussi n'a jamais pu atteindre aucun niveau de satisfaction et d'estime de soi et qui n'a pas cru en lui et qui fait comme malheureusement certains disent « je vais faire moi ». La même chose que ce que j'ai subi, mais moi, ça va être réussi.
Ah, oui.
Donc, il a violé ses propres enfants.
Oh là là, c'est terrible. Mais en fait, tu les as rencontrés. Enfin, tu as eu quand même une volonté de pouvoir... tu avais un autre emploi du temps, puisque tu commençais ta retraite, mais tu as voulu rencontrer des gens comme ça, que la vie te donnait finalement pour pouvoir...
Oui, c'est pour moi, c'est l'aventure. J'ai rencontré ces deux-là parce que c'est ces deux-là que j'ai rencontré en premier et qu'ils m'ont fait suffisamment confiance pour me confier assez rapidement ce qu'était leur histoire.
Oui.
Et qu'ensuite, nous nous sommes liés d'amitié au point qu'on s'est rencontrés pendant plusieurs années.
Ah, c'est ça, oui. Oui. Et dans la conférence que tu donnais... Je me rappelle que tu avais parlé de ce couple, Guillaume, Élodie et leur fille.
C'est ça. Alors ça, c'était à Nîmes. C'était à Nîmes et ça m'a aussi énormément touché. C'était à la rue de l'Aspic. Lui était assis sur son carton, avec un carton qui expliquait un peu sa situation, pendant que sa femme et sa petite-fille attendaient dans un bistrot pas loin. Et lui faisait la manche jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour aller ravitailler sa femme et sa fille pour qu'ils puissent payer leur consommation. On est fin novembre, début du temps de l'Avent. Il fait froid. Ils vivaient tous les trois, lui en tant qu'étudiant, chez sa maman. Sa maman est défunte brutalement. Et à cause du jeu du bail signé par la mère, il s'est retrouvé à la rue avec sa femme et sa fille. Et les sociaux ont immédiatement commencé à faire leur travail. Il ne s'agit surtout pas de dénoncer un manque d'efficacité des sociaux, mais il leur faut du temps pour trouver une solution, la mettre en place, etc. Et pendant ce temps-là, la seule solution, c'est la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, à ce moment-là, était complètement surchargée. Elle ne permettait pas de recevoir... un couple avec enfant. Moralité, le couple était du côté de la périphérie, avec un grand plastique qu'ils accrochaient aux arbres comme abri, et ils essayaient de dormir avec 3 ou 4 couvertures qu'ils avaient réussi à prendre dans le froid. Et de voir cet homme et cette femme et cette petite fille au début du temps de l'Avent, ça faisait irrémédiablement penser à un certain Joseph, une certaine Marie qui ne trouvait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, sauf que c'est plus une histoire qu'on raconte, c'est une réalité qu'on peut croiser dans la rue.
Oui. Et en fait, tu es allé à leur rencontre, tu as fait connaissance avec ces différentes personnes, pas avec un esprit missionnaire pour pouvoir gagner quelque chose, les convertir à ta foi, mais pour rien et pour tout, c'est-à-dire les rencontrer eux.
Oui, bien entendu. Je n'ai absolument pas de perspective prosélyte, comme on dit.
Oui.
Pas du tout. Ce qui m'a toujours accompagné, c'est la rencontre de celui qu'on appelle le jeune homme riche qui se précipite aux pieds de Jésus en lui disant « qu'est-ce que je dois faire ?» Moi, c'est le « qu'est-ce que je dois faire ?» qui m'intéresse. Pour gagner la vie éternelle ou pour recevoir la vie éternelle en partage, ok. Mais c'est la question d'aujourd'hui, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour vivre, tout simplement, vivre déjà maintenant. La vie éternelle, elle commence maintenant. Ça me paraît important. Or, ce qui me paraît magnifique, c'est que Jésus commence à discuter avec lui de ben, qu'est-ce qu'on répond d'habitude, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, enfin, d'avoir une certaine attitude éthique. Et puis, lorsque l'homme en question lui dit « mais tout ça, je le fais, je connais, c'est pas ça que je te demande », il y a cette parole de Marc, parce qu'elle est de Marc, enfin, il n'y a que Marc qui la cite. Marc est celui qui nous raconte que lorsque Jésus multiplie pain et poisson, il fait asseoir les gens sur l'herbe verte. Pourquoi nous dire qu'elle est verte, si ce n'est que pour ces petites allusions au confort. Lorsque Jésus est dans la barque avant la tempête, Marc nous raconte que Jésus dort sur un coussin. Pourquoi ce détail du coussin? Et là, on a Marc qui nous dit « Alors Jésus le regarda et se prit à l'aimer. » Et pour moi, ça c'est un des fondements, ou je vais dire une des clés d'interprétation de l'Évangile. D'abord regarder, et ensuite découvrir que la personne qu'on regarde, elle mérite vraiment d'être aimée.
Ah oui, oui, oui. Après l'avoir rencontré, regardé.
Oui, c'est ça.
Compris et... Ah d'accord. Et l'aimer.
Et c'est ça qui me sidère. Je vais dire les choses crûment, mais j'ai fait plusieurs milliers de cérémonies dans ma vie. J'ai donc partagé avec des gens de toute provenance des moments très très fondamentaux autour de l'amour, autour de la naissance, autour de la mort. Eh bien, très sincèrement, je n'ai jamais rencontré un con. Je n'ai rencontré que des gens qui avaient beaucoup de valeur. Le problème, c'est qu'on est souvent avec des masques et des rôles sociaux qui font que ça ne se voit pas.
Et oui, et oui. Et puis, on va rencontrer l'autre parce qu'on a une préoccupation, on a un travail, on a une passion, et puis l'autre ne correspond pas à ce qu'on attend, on voudrait de lui, et donc on ne le regarde pas. Quoi.
Non, c'est ça, on regarde ce qu'il devrait être, mais non pas ce qu'il est.
Oui. Et alors, en fait, il y a peut-être Matthieu 25 qui t'a motivé,
Oui.
Mais c'est toujours un peu gênant parce que c'est ce texte admirable de l'évangile de Matthieu, mais qui peut être culpabilisateur parce qu'on se dit, on n'a pas... c'est Jésus qui dit « j'étais pauvre et vous m'avez... Oui. »
Mais Jésus ne dit pas « vous devez le faire », il dit « merci parce que vous l'avez fait
». Oui, c'est ça, c'est tout différent.
Il y a une reconnaissance de sa part. Et c'est vrai que c'est des choses fondamentales. En fait, il ne fait que reprendre ce qui est déjà dans la part des textes des prophètes, qui vont même plus loin que lui. Les prophètes ne diront pas de visiter les prisonniers, mais de carrément les libérer. Oui. Il va très loin. Mais c'est vrai, ce texte est fondamental, mais ce qui me touche, c'est que, à mon avis, ce texte maintenant, il est accompli et il est dépassé. Les églises, nous continuons à vouloir absolument nourrir, abreuver, donner des logements, etc. Mmh. La société civile a pris le relais. C'est oui. elle qui fait ça. Et je crois que l'église doit maintenant accepter de laisser la place à l'État. L'État fait tout ce boulot. Il le fait bien. Enfin, il le fait, oui, le mieux qu'il peut. Oui. On peut toujours perfectionner les choses, mais ce qu'il fait est déjà bien. Mais par contre, nous, on doit, à mon avis, voir plus loin.
C'est ça. Oui, parce que déjà l'Église, donc quand l'Église est dans l'organisation de l'entraide, l'entraide protestante, l'association protestante d'assistance, etc., elle le fait bien, mais elle le fait comme
les autres.
Comme les œuvres laïques, c'est comme ça. Les œuvres catholiques ou communistes, etc.
C'est ça.
On le fait tous à peu près bien, fait comme l'État, comme la responsabilité de notre société. Mais tu dis, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans la rencontre réelle, un peu comme dans Marc 10, où Jésus l'a vu.
Le regarde d'abord, l'aime, et puis va lui dire, je vais te dire ce que tu peux faire. Je vais te montrer que ta quête, tu n'y arriveras pas.
Ah oui, d'accord.
Vends tout et suis-moi, tu n'y arriveras pas. Donc, ta question, elle est mal posée.
Oui.
C'est pas en « qu'est-ce que je dois faire ?» mais « libère la personne que tu es afin d'être qui tu es ». Et c'est quand tu auras la liberté d'être qui tu es que tu trouveras alors tout à fait la piste.
Oui.
Riche ou pas riche, ça devient un détail.
Ils ont cloué le ciel et la terre n'a pas dit un seul mot. Ils ont
Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, au micro Michel Jasse avec Philippe Genton, que je viens de redécouvrir après l'avoir entendu dans une conférence sur le travail qu'il a accompli, ou le travail relationnel auprès des sans domicile fixe à Alès. Philippe, je t'écoute.
Oui, merci. Alors, je volontiers, j'ai rencontré donc ce que j'ai dit, et puis ce qu'il y a d'extraordinaire dans la rue, c'est que c'est un vrai réseau. Ils se connaissent tous, plus ou moins avec des conflits à la clé, c'est vrai, mais ils se connaissent tous. Ils ont quelque part des territoires un peu qu'ils se sont attribués. Mmh. Les places où ils sont, c'est des places qu'ils revendiquent, souvent de telle heure à telle heure, c'est celui-ci, etc. C'est plus organisé que ce qu'il y paraît.
Oui.
Et puis, en même temps, ils se racontent les choses, toutes les bons tuyaux, ils se les passent. Donc, il faut dire que j'ai eu la chance d'être aidé par quelqu'un qui m'a permis de donner une certaine dimension à cette présence. C'est un homme que j'ai connu en Suisse, qui était propriétaire d'une marque réputée de montres. Il l'a vendue à une énorme société. Enfin, je ne vous dirai pas le prix parce que je l'ignore, mais enfin, il y avait beaucoup de zéros. Et puis, cet homme m'a visité et puis on est allé dans les rues tous les deux. Et puis il m'a dit, écoute, ça me touche, ces gens-là, je ne les connaissais pas, tu me les fais un peu découvrir, je vais te donner un coup de main. Et le coup de main, c'était un chèque de 1000 euros. Mmh. Et régulièrement, j'ai reçu un chèque
il a renouvelé
cette somme,
son don.
Jusqu'à, hélas, il est décédé, mais ça a permis de donner une certaine dimension à cela. Je ne voulais pas entrer dans l'entraide sociale parce que ce n'est pas ce que je crois, mais comment peut-on en même temps travailler, c'est bon, mon objectif, sur l'estime de soi de ces gens.
Ah oui.
Et je me suis rendu compte que leur problème, c'était que le dimanche, ils ne mangeaient pas. Parce que la semaine, faire la manche, ben, y a du monde qui passe.
Et, oui.
Et puis la main se remplit, au bout d'un moment, il y a de quoi aller s'acheter un petit repas, et puis malheureusement aussi d'autres choses, mais l'essentiel est là. Tandis que le dimanche, et surtout aujourd'hui, les gens lisent le journal à l'écran, ils mettent du pain au congélateur qu'on va cuire le dimanche, et puis les cigarettes, on en achète une provision. Donc les gens sortent de moins en moins le dimanche, il n'y a personne dans la rue, la manche ça ne marche pas, et d'ici que le magasin ferme à midi et demi ou une heure, ils ont peut-être quelques euros et il n'y a plus de magasin ouvert. Donc ils ne mangent pas. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Puisque de l'argent me tombe dans la main, eh bien, on va partager un repas ensemble. Donc, il y a une petite enseigne à Alès qui vend des formules repas. Alors, on se mettait en la queue leu-leu là-bas, chacun choisissait sa formule repas. Il y a toujours un qui me disait, est-ce qu'à la place de la boisson, je peux prendre une glace? On sentait que c'était une espèce d'énorme joie, presque infantile, de pouvoir manger une glace, parce que probablement qu'il ne s'en payait jamais. Et puis, il y avait le problème des chiens, c'est que la plupart ont des chiens.
Ah, oui.
Alors, les chiens ne pouvaient pas rentrer, donc il fallait toujours laisser quelqu'un avec tous les chiens sur le trottoir. Pendant ce temps, les chiens, évidemment, ils aboient parce que le maître n'est pas là. Et puis, les gens commencent à avoir peur des chiens, viennent pas.
Mais tu as commencé ça alors que déjà, tu rencontrais un groupe.
C'est ça. J'en connaissais déjà une douzaine, une quinzaine,
douzaine.
quelque chose comme ça.
Oui,
c'était pas encore bien nombreux.
Oui.
Et puis, voilà. Puis, je passais en dernier, puis je payais la formule repas. Et puis après, on allait manger tranquillement un petit peu plus loin. Ça donnait un moment de convivialité. Ce n'était pas seulement de donner à manger, c'était de partager un repas, ce qui est un peu différent.
Ah, oui.
Et puis, au bout d'un moment, on est devenu trop nombreux. Trop de chiens, trop de monde, les gens commençaient à se plaindre. Les patrons, par contre, adorables, ils ont joué le jeu, ils étaient vraiment chouettes. Oui, ils ont rien dit, mais j'ai compris que c'était le moment de commencer à faire autrement. Donc, nous sommes allés, quand on veut être discret, le meilleur moyen, c'est d'être au centre de tout. Donc, je suis allé devant la préfecture.
Oui.
Là, pas moyen de se cacher, elle est fermée. Mais par contre, il y a
la sous-préfecture.
La sous-préfecture, oui, bien sûr.
Pardon, non, mais c'est le Nîmois qui réagit.
Parce que là-bas, ils parlent toujours de la préfecture. Mais c'est vrai, il faut la remettre dans le bon grade.
On est à Alès.
Oui, oui, d'accord. Et puis là, il y a une zone d'herbe et puis un petit mur. Alors, à deux ou trois, on allait dans un magasin à côté. On prenait quatre sacs, on les remplissait de toutes sortes de choses en pensant aux musulmans, de ne pas prendre du porc, enfin, etc. Et puis, on organisait un formidable pique-nique dans cette zone d'herbe, là. Et puis, on partageait un repas. Mais là, on était déjà facilement une trentaine. Donc, c'était presque une organisation.
Oui.
Et puis, l'automne arrivant, ben, je me suis dit, il faut commencer à réfléchir. Il va y avoir la pluie, il va y avoir le froid. Il faudrait trouver un endroit où se cacher. Enfin, se cacher, se mettre à l'abri. Et donc, on est allé à la gare routière. Évidemment, c'est strictement interdit, mais le grand secret dans la vie, c'est que quand c'est interdit, il ne faut surtout pas demander la permission. Et tant qu'il ne se passe rien, en principe, il n'y a pas de réaction.
Oui.
C'est ce qui s'est passé. Je me suis mis exprès sous la caméra. La gendarmerie étant pas loin, ils pouvaient presque nous voir depuis leur fenêtre. Et on n'a surtout pas essayé de faire les choses discrètement. Et là, je n'ai plus fait de pique-nique. Je suis carrément venu avec mes marmites, mon gaz et tout le bazar. Il fallait décharger tout ça de la bagnole. Et puis, j'étais dans la gare routière avec ma voiture. Évidemment, je devais chaque fois me ramasser un PV, normalement. Et puis, je faisais le repas. Le repas pour les 30 à 40 qui venaient le partager. Et vraiment, c'était devenu un moment de convivialité que l'on avait beaucoup de plaisir à vivre, qui permettait de se confier, de se parler, de partager des questions très personnelles, et là, de faire des rencontres plus approfondies. Manger n'était plus du tout le but, c'était que le prétexte grâce auquel on restait ensemble assez longtemps.
Et là, vous constituiez un groupe assez important, finalement.
Ah ben oui, on était jusqu'à 40 personnes à la gare routière.
Voilà.
Et c'était pas triste, parce que sur 40, il y avait au moins une quinzaine de chiens.
C'est ça, oui. Et puis, quelquefois, ça devait être un peu difficile, parce qu'ils se disputaient ou...
Non,
c'était plutôt un climat assez...
Ça, ils ont compris que ça, c'était des choses qui, pour moi, n'avaient rien à faire là.
D'accord.
J'ai eu qu'à une fois crier, mais c'est tout. Ça s'est toujours très bien passé.
D'accord.
Et ça nous donnera l'occasion, probablement la prochaine fois,
De revoir un peu la question et d'approfondir aussi.
De voir ce qu'il en est sorti.
Oui. Merci beaucoup, Philippe Genton,
avec les
sans domicile fixe d'Alès, cette expérience qui nous touche tous, parce qu'elle n'est pas de l'ordre de l'entraide protestante classique, ou alors on laisse aussi les organismes continuer leur travail qui est bien fait.
Bien sûr.
Mais c'est l'élément un peu existentiel, la rencontre de l'autre, comment changer un peu de monde dès ici-bas avec les personnes qui sont là devant nous. À bientôt.
Merci.
Suivez-nous sur les réseaux Radio Alliance Plus, sur Facebook et Instagram.